une création.
Blast.
Souvent, on se demande en tant que citoyen vivant en Occident, comment peut-on avoir une influence politique sur ce qu'il se passe en Palestine? On pense tout d'abord aux cagnottes en ligne, qui aident les Palestiniens. Et puis, vient l'idée du boycott. Le boycott économique des entreprises qui sont complices de la colonisation et du génocide en cours à Gaza. En 2005, des militants palestiniens lancent à travers le monde le mouvement Boycott des investissements et sanctions contre Israël. Le mouvement, né à Ramallah, s'inspire du boycott de l'Afrique du Sud dans les années 80 et il va rapidement prendre de l'ampleur à travers le monde.
Dans les rues de Kuala Lumpur, à 7000 km de Gaza, le boycott dure depuis des mois. La population malaisienne affiche son soutien à la Palestine et pointe du doigt des dizaines de marques accusées de soutenir Israël.
Malgré que le droit au boycott soit reconnu par l'ensemble des juridictions internationales, les militants de BDS, comme ils se font appeler, font face à une criminalisation de la part des autorités, notamment en France. Mais alors, est-ce que le boycott, ça marche? Est-ce que cela a un impact sur la politique israélienne menée à l'encontre des Palestiniens? Pour y répondre, je reçois Fiona Ben-Shekroun, coordinatrice européenne du mouvement. Bonjour Fiona Ben-Shekroun.
Bonjour.
Comme je l'ai dit, vous êtes coordinatrice européenne pour le mouvement BDS. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que BDS, comment est né le mouvement, qui est derrière?
Oui, le mouvement BDS, donc Boycott des investissements sanctions, est né d'un appel d'une très large coalition de la société civile palestinienne en 2005. Et donc, dans cette coalition, on retrouve les syndicats palestiniens, les forces politiques, des mouvements de résistance populaire, des associations de la société civile, qui représentent les trois composantes de la population palestinienne, donc les Palestiniens qui vivent sur le territoire occupé, les Palestiniens qui vivent dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël et les Palestiniens qui vivent en exil et qui est la grande majorité. Et donc cet appel a été lancé en 2005 par cette large coalition et appelle au boycott des entreprises et institutions complices, boycott économique, mais aussi culturel, académique, sportif, de toute institution et entreprise, qu'elle soit israélienne ou internationale, qui sont complices dans des violations des droits humains. Appelle aussi à des campagnes de désinvestissement. Donc, toutes les institutions financières, les universités, les syndicats, les fonds de pension se désinvestissent de l'État d'Israël et des entreprises qui sont complices de violations des droits humains. Et enfin, des sanctions ciblées et légales à l'encontre d'Israël pour qu'il respecte le droit international. Et donc, parmi ces sanctions, à l'heure actuelle, la plus importante est bien entendu un embargo militaire, pas d'armes à destination en provenance ou en transit vers Israël, mais aussi la suspension d'Israël de forums internationaux comme l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi des Jeux Olympiques, de la FIFA. Il n'y a pas de business as usual avec un régime qui commet le crime d'apartheid et qui commet en l'instant même un génocide à Gaza.
Quelles sont les revendications claires du mouvement BDS? Qu'est-ce que vous demandez concrètement?
Alors, les revendications sont nées d'un consensus de la société palestinienne et donc elles sont au nombre de trois. La première, c'est le démantèlement du mur illégal d'apartheid et la fin de la colonisation et du régime d'occupation. La deuxième, c'est le démantèlement du système d'apartheid qui est reconnu à la fois depuis des décennies par les organisations civiles palestiniennes, mais aussi l'organisation B'Tselem, l'organisation des droits humains israéliennes, des organisations comme Amnesty International, mais aussi des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Et enfin, la troisième demande, qui est l'une des plus importantes, c'est le respect du droit au retour, comme stipulé par la résolution 194 des Nations Unies, donc le droit au retour des réfugiés palestiniens et palestiniennes à leurs terres et leurs propriétés.
Ceux qui sont partis en 1948.
Ceux qui sont partis en 1948 et qui aujourd'hui représentent une large majorité de la population palestinienne, qui sont en exil, déplacés, forcés, que ce soit à l'intérieur même des territoires occupés, mais aussi en Syrie, au Liban, en Jordanie, et aussi à travers le monde, notamment en France.
Justement, on parle du boycott. On pense souvent aux marques, on entend souvent qu'il faut boycotter McDonald's, Coca-Cola ou même Carrefour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il faut boycotter ces marques-là et en quoi c'est important?
Alors, le boycott est un outil de résistance pacifique qui n'a pas été inventé par les Palestiniens. Ça a été utilisé dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, dans des luttes anticoloniales comme en Inde. Et ça a été utilisé depuis des décennies par les Palestiniens également notamment pendant la première intifada, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir un impact en tant que consommateur et consommatrice sur des entreprises et des institutions qui sont complices de violations. Maintenant, la spécificité stratégique du mouvement BDS, c'est vraiment d'appeler à des boycotts ciblés. Parce que ça a prouvé, l'histoire le prouve, les boycotts ciblés ont plus d'impact. C'est l'idée d'avoir une force collective sur un petit nombre d'entreprises et d'institutions pour avoir un maximum d'impact. Comment est-ce qu'on choisit les priorités de boycott, comme McDonald's, comme Coca-Cola, comme Carrefour, AXA, BNP Paribas, etc. C'est vraiment l'idée d'avoir de respecter quatre critères. Le premier, c'est la complicité, qui doit être directe, et au plus c'est complice, au mieux c'est. La deuxième, c'est l'impact médiatique. On va aller vers des entreprises qui sont connues pour avoir plus d'impact médiatique, faire pression sur la réputation de ces entreprises et institutions. Le troisième, c'est la possibilité de créer des alliances intersectionnelles. On va aller vers des cibles qui ont tendance à aussi faire face à des campagnes par le mouvement de justice climatique, par des mouvements queer, par les syndicats aussi, parce que toute justice, lutte de justice sociale, se complète. Et la quatrième, c'est la chance de succès. On ne va pas pour une cible et une entreprise ou une institution, on n'appelle pas au boycott quand on ne pense pas qu'il y a une possibilité de succès. C'est quelque chose qui est important pour le mouvement, mais c'est aussi important pour toute autre institution et entreprise. Quand on commence une campagne, on fait une promesse, on a des demandes claires de fin de complicité. Quand ces demandes sont rencontrées par ces entreprises ou institutions, la campagne s'arrête. Mais on fait une promesse aussi à d'autres entreprises, que si elles commencent à faire du partenariat, elles commencent à participer à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ou le génocide en cours à Gaza, le mouvement BDS sera là pour pouvoir les faire respecter le droit international.
Quand vous dites complice, vous pensez à quoi ? En quoi ces marques peuvent être complices ?
Mais si on prend par exemple AXA à l'heure actuelle, AXA a toujours des investissements dans des entreprises d'armement qui sont directement impliquées et qui arment littéralement le génocide à Gaza. Si on prend Carrefour a des partenariats avec des entreprises israéliennes qui sont présentes dans les colonies illégales et donc va directement en violation même de le dernier jugement de la Cour internationale de justice qui reconnaît l'illégalité de l'occupation et des colonies et la présence d'Israël dans le territoire occupé. Carrefour a aussi donné des packages gratuits de nourriture aux soldats qui commettent à l'heure actuelle un génocide à Gaza. Et donc Coca-Cola a une entreprise qui fait de l'embouteillement dans une colonie illégale dans le territoire occupé. Il possède aussi des actions dans Tabor Wine, qui est une entreprise de vin dont les vignes sont sur des terres confisquées palestiniennes qui ont forcé des déplacements, qui sont responsables de crimes de guerre. Et donc pour ces raisons-là, on appelle à des boycotts ou des campagnes de désinvestissement jusqu'à ce que ces entreprises cessent leur complicité avec ces crimes.
Alors justement, est-ce que ça marche ? Parce qu'on entend souvent le discours quand on parle avec les gens de boycott, oui, mais ça ne sert à rien vraiment de boycotter, ça ne va pas avoir d'impact. Est-ce que le boycott marche ?
Alors le boycott marche. Avant de rentrer dans le pourquoi le boycott marche, je pense que c'est aussi important de détricoter un peu cette propagande internationale, propagande israélienne et un peu capitaliste, mm-hmm. de penser que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est ça qu'ils veulent nous faire croire aussi, c'est de croire que notre pouvoir populaire ne fonctionne pas. Le pouvoir populaire fonctionne. On voit que McDonald's, qui fait face à une campagne de boycott organique depuis environ un an, parce qu'ils ont envoyé de la nourriture gratuite aux soldats israéliens,
leurs ventes ont baissé de 8%.
Oui, leurs ventes baissent parce qu'effectivement, ils font face à un boycott qui est très massif, pas seulement en Europe, mais aussi dans des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, dans le monde arabe. Donc ça fonctionne. On a des entreprises françaises dans le passé, même avant 2023, comme Veolia ou comme Orange, qui ont fait face à d'importantes campagnes de boycott, au point que pour Veolia, c'était très clair, ils ont perdu un dernier contrat dans un pays du monde arabe de plusieurs milliards de dollars, et au niveau du conseil d'administration, à un moment donné, ils se sont dit, on cesse les frais, on arrête d'investir en Israël, parce que ça nous apporte beaucoup trop de pertes de contrats. Et ça, c'est parce qu'il y a des campagnes. Maintenant, le boycott, il est à la fois consommateur, mais il s'accompagne aussi de campagnes qui vont mettre à mal la réputation des entreprises. Si on prend AXA, AXA a fait face à une campagne de boycott et de désinvestissement pendant 8 ans pour son implication dans l'entreprise Elbit Systems, qui est l'une des plus grandes entreprises d'armement israélienne, et dans des banques israéliennes. Pendant 8 ans, il y a eu des actions aux assemblées générales, des actions en face des locaux d'AXA. Il y a eu des appels de boycott. Il y a eu du travail avec les partenaires d'AXA dans différents pays et avec des universités notamment. Et ça a mené finalement, en milieu d'année 2024, d'avoir AXA qui se désinvestisse totalement. En temps normal, nous, on aurait fini cette campagne. Maintenant, on est en moment où on a un génocide à l'encontre de 2,3 millions de personnes. Et donc, on a voulu vérifier qu'AXA n'était pas complice de ce génocide et il s'avère que AXA l'est. Donc, la campagne de boycott continue sur AXA. Donc voilà, le boycott fonctionne en termes d'image. Maintenant, si on prend aussi le boycott académique, le boycott culturel, il y a énormément d'universités qui ont coupé leurs liens avec des universités israéliennes. Ces universités israéliennes sont partie prenante, sont des piliers du système d'oppression coloniale israélien. Et donc, en Norvège, en Espagne, en Belgique, en France récemment aussi, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, on a des universités qui ont décidé de mettre fin à ces partenariats parce qu'elles ne veulent pas, au final, être complices d'un système d'oppression contre le peuple indigène palestinien. Le boycott culturel fonctionne énormément. On a des stars hollywoodiennes, des très grandes stars hollywoodiennes ou du monde de la chanson qui prennent aussi position.
The Palestinian protest shut down the Oscars tonight. Humanity wins.
Earlier this week, UNHCR's High Commissioner called, together with several other humanitarian organizations, for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate release of all civilians held hostage.
C'est le cas aussi en France, et c'est très important de pouvoir, en fait, vraiment ne pas considérer Israël comme un État normal. Israël n'est pas un État normal. Depuis des décennies, depuis plus de 76 ans, Israël commet des crimes de guerre, commet le crime contre l'humanité d'apartheid, maintenant commet un génocide en cours depuis plus d'un an à Gaza. Il n'est pas possible, éthiquement, moralement, légalement, de continuer à investir dans cet État et dans ces entreprises.
Alors, vous l'avez dit, depuis 76 ans, ils commettent des crimes de guerre. Le boycott, vous l'avez dit, fonctionne, mais on n'a pas l'impression que ça arrête quand même Israël.
Alors, je pense que, clairement, sur le terrain, les vidéos, les témoignages qui nous proviennent de Gaza sont horribles. Enfin, c'est le premier génocide live stream de l'histoire. Et je pense que toute personne qui va regarder les images se rend compte de la destruction totale du système de santé, du système d'éducation, etc. La violence coloniale augmente à travers toute la Palestine historique. On a maintenant la guerre au Liban. Donc oui, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Maintenant, si on prend un espèce de pas en arrière, on se rend aussi compte qu'Israël n'a jamais été aussi isolé sur la scène internationale. Quand on voit les votes au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, on se rend compte qu'Israël a très peu de soutien, au final, au niveau du droit.
Oui, c'est toujours le veto des États-Unis qui les sauve.
C'est toujours le veto qui les sauve. Et donc, clairement, il y a une discussion aussi, il y a un enjeu de la crédibilité, au final, des Nations Unies, de la crédibilité du droit international. Et si on sort un peu de notre sphère un peu européocentrée, on se rend compte aussi qu'au niveau du Sud global, il y a énormément de choses qui se passent. On a énormément d'États qui commencent à mettre en place des sanctions, que ce soit au Brésil, au Chili, la Turquie a arrêté toutes ces relations économiques. Elle a fermé son espace aérien, par exemple, récemment. On a l'Indonésie ou la Malaisie qui a fermé ses ports à l'entreprise ZIM qui transporte de l'armement. Donc, on a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Malheureusement, c'est lent. C'est un processus qui est lent. Mais c'est important, encore une fois, et je reviens là-dessus, de vraiment essayer de garder en tête tout ce qu'on arrive à mener et de continuer à faire pression. Le pouvoir populaire est la chose la plus importante à garder et à mobiliser. On est très bien conscients, et les Palestiniens le sont aussi, le droit international seul ne va pas leur permettre d'obtenir leur libération. La libération ne vient pas de La Haye ou de New York. Elle va vraiment venir d'une agence populaire, d'un pouvoir populaire qui va forcer ces États, forcer ces entreprises à respecter le droit international.
Vous avez aussi des réussites récentes, comme par exemple avec Puma.
Oui, alors hier, on a annoncé la victoire par rapport à Puma. Puma faisait la cible d'un boycott parce que Puma avait un partenariat direct avec l'association de football israélienne qui compte en son sein des équipes de football des colonies illégales. Et donc, pendant plusieurs années, il y a eu une grande campagne de boycott de Puma qui a eu un impact clair sur la réputation de la marque, qui est quelque chose de très central pour Puma. Ils travaillent vraiment beaucoup avec leur partenariat avec des stars, ils travaillent beaucoup sur des partenariat avec des joueurs de football, etc. Et donc, il y a eu toute une campagne qui a été mise en place à travers le monde et qui a mené, il y a quelques mois, Puma a annoncé qu'ils n'allaient pas renouveler leur contrat. Généralement, une marque ne va pas annoncer ça avant la fin du contrat. Et donc, on sait que c'est lié au fait que, avec le génocide en cours à Gaza, avec des années de campagne, Puma s'est dit « c'est plus possible de pouvoir garder ce contrat ». On a attendu quelques mois pour s'assurer de la fin de ce contrat, s'assurer que Puma avait été remplacé ou pas, à voir. Et donc, du coup, là, maintenant, on peut clairement établir la victoire sur Puma, qui n'est plus le sponsor officiel de l'association de football israélienne. Et en France, ça a été une campagne active. Il y a eu beaucoup de journées d'action en France. Et donc, voilà, c'est aussi une campagne qui a été gagnée en France.
L'idée générale, c'est quoi ? C'est de pouvoir isoler économiquement Israël afin, justement, de les obliger, si vous voulez, à respecter le droit international.
C'est vraiment, oui, c'est vraiment l'idée d'isolation. C'est vraiment d'avoir des pertes aussi économiques, des pertes en réputation, pour le forcer à respecter le droit international et surtout à démanteler en fait son système d'apartheid et d'oppression coloniale qui est là depuis 76 ans. Donc ça, c'est l'objectif, c'est clairement l'objectif. Maintenant, l'appel du BDS, il se focalise vraiment sur la complicité. La demande, elle est claire. Si la lutte de libération, elle est menée par le peuple palestinien, elle est légitime et reconnue par le droit international. Pour nous qui sommes hors de Palestine, la demande minimum, c'est de ne pas utiliser nos taxes, de ne pas utiliser notre nom pour que Israël puisse commettre ses crimes. Et donc ça, c'est le minimum. On ne veut pas que notre argent, que notre nom soit utilisé pour cela. Donc c'est là que vient vraiment la demande de ne pas soutenir Puma. Enfin, à l'heure actuelle, maintenant, vous pouvez réacheter Puma si vous voulez, mais en tout cas pas au moment où c'était la cible d'un boycott, de ne pas aller chez Carrefour, de ne pas aller chez AXA, jusqu'à ce qu'ils mettent fin à leur complicité.
Alors en France, le mouvement, il est criminalisé par les autorités, par le gouvernement français. Comment vous y faites face ?
Bah clairement, dans le monde occidental et en Europe et en France, on a une criminalisation du mouvement. Maintenant, c'est juste pour mettre les choses très bien à plat et très clair, le droit au boycott est reconnu. C'est de la liberté d'expression. Ça a été reconnu par la Cour européenne des droits humains, ça a été reconnu par la Cour de cassation française, en Cour d'appel aussi. Donc le droit au boycott est là. Donc la criminalisation du mouvement, elle est littéralement politique et elle est menée aussi par des lobbies israéliens qui vont aller faire pression pour criminaliser le mouvement. Maintenant, ce mouvement, il continue à travailler. Quand il y a des attaques et des criminalisations des activistes du mouvement BDS, on a des centres légaux qui nous aident, qui vont soutenir ces activistes en cours de justice, afin que ces activistes puissent se focaliser sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'offensive, c'est-à-dire continuer à faire du boycott, continuer à faire du désinvestissement, continuer à faire des sanctions. Et j'aimerais juste rajouter aussi la décision de la Cour de justice internationale en juillet 2024 pour l'illégalité de l'occupation. Elle a été suivie par un vote au niveau de l'Assemblée générale qui appelle à des sanctions. Et donc au final, c'est comme officialiser la légitimité du mouvement BDS qui, depuis une vingtaine d'années, et des Palestiniens depuis des décennies, appelle à des sanctions. Donc la criminalisation est vraiment politique. Elle est menée par une frange du gouvernement et des États qui au final réalisent que reconnaître ce que fait Israël à l'encontre du peuple autochtone palestinien, c'est aussi reconnaître leur propre complicité et leur propre colonialisme. Le colonialisme n'est pas une partie historique. Le colonialisme est encore bien présent dans les politiques des États et de l'État français, dans les politiques économiques des entreprises françaises. Et donc, il y a un besoin. Je pense que la Palestine n'est pas juste une question palestinienne. Elle met aussi en lumière énormément de manquements de transparence, de manquements démocratiques. Et donc, ça concerne tout le monde. Parce qu'il se passe en Palestine pourrait se passer ailleurs si on ne met pas fin à cette impunité.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment le mouvement est perçu en Israël par les autorités israéliennes et comment vous y faites face ?
Clairement, on est une cible en Israël. Il y a quelques années la création d'un ministère, le ministère stratégique, qui avait pour seul objectif de lutter, de combattre le mouvement BDS. Maintenant, le mouvement BDS, par sa définition, est un mouvement. Donc, c'est très difficile de le mettre à terre, on va dire. Et ils n'ont définitivement pas réussi, parce que le mouvement continue à grandir. Il y a de plus en plus de syndicats, d'associations, d'organisations, de partis politiques, de mouvements de la base populaire qui rejoignent ce mouvement d'églises à travers le monde, avec un maximum d'impact. Et donc là, on voit dans les presses israéliennes, notamment, une panique. Parce qu'effectivement, Israël est de plus en plus isolé, parce qu'Israël est de moins en moins normalisé comme un État normal. Ce n'est plus la fameuse propagande de la démocratie du Moyen-Orient. Au contraire, c'est un État génocidaire, c'est un État d'apartheid, d'occupation illégale de territoires occupés. Et donc pour ça, oui, ça fait peur. Et ça fait peur aussi en Europe, et ça fait peur aussi aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a criminalisation du mouvement. Maintenant, on sait aussi un mouvement qui a son objectif, qui est ancré dans le droit international. C'est un mouvement antiraciste, non violent, qui fait très attention à faire respecter ces guidelines très importantes pour les Palestiniens et Palestiniennes. Et donc, on va continuer jusqu'au démantèlement du système d'apartheid, comme ça a été le cas en Afrique du Sud à l'époque.
J'imagine qu'on vous taxe aussi d'antisémites, de mouvements antisémites.
C'est toute l'instrumentalisation de la lutte antisémite. Parce que l'antisémitisme existe. Il existe en France, il existe en Europe, il existe à travers le monde. Le vrai antisémitisme. Tout comme l'islamophobie existe et toute autre sorte de racisme. Et donc, on est très clair là-dessus. Le mouvement BDS est antiraciste. Et en son sein, on retrouve des organisations juives, on retrouve des organisations comme Jewish Voice for Peace aux États-Unis, comme l'Union des Juifs progressistes belges ou français. Donc, on a des organisations juives anti-sionistes qui aussi condamnent cette équation entre antisémitisme et anti-sionisme qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste et qui au final, met à mal aussi la vraie lutte contre l'antisémitisme qui est nécessaire.
Alors, vous l'avez dit, le boycott, ce n'est pas seulement un boycott commercial, économique, il y a aussi un boycott académique, culturel, comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, alors ce qui est très important de savoir aussi, c'est que le boycott académique et culturel ne vise pas les individus, ne vise pas l'identité, que ce soit l'identité en matière de religion, de race, de nationalité ou même d'opinion. C'est un boycott qui cible la complicité. Donc quand on parle de complicité académique, on parle de la complicité des institutions d'enseignement israéliennes. Les universités israéliennes notamment. On ne va pas boycotter un académicien israélien parce qu'il travaille dans une université ou parce qu'il est israélien. Non. Ce qui différencie par exemple du boycott académique au moment de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Le boycott académique, il est soutenu par des académiciens, notamment des grands académiciens israéliens comme Ilyan Pappé.
Ça fonctionne?
Alors là, pour l'instant, on l'a vu ces derniers mois, ça, il y a eu une lumière importante sur ce qu'est le boycott académique. Et ça a commencé à Columbia University aux États-Unis, où des étudiants ont décidé de dire stop. Ils ont décidé d'occuper leur campus universitaire et dire on ne veut pas que notre argent pour pouvoir être éduqué soit utilisé pour être investi dans des entreprises israéliennes ou internationales qui sont complices de crimes de guerre ou avec des partenariats avec des universités israéliennes. C'est très spécifique aux États-Unis, c'est des universités privées, donc voilà, ça fonctionne un peu comme...
En France, on a fait un reportage sur Normalsup qui s'était mobilisé aussi là-dessus.
Voilà, c'est très important. Et donc, on le voit aussi en France, il y a eu des occupations de campus, il y a des mouvements d'étudiants qui se sont créés ou qui se sont renforcés avec des académiciens, des professeurs qui ont soutenu et qui vont directement au rectorat, qui vont directement dans les facultés, au président de l'université pour leur dire, on veut de la transparence, on veut savoir quels sont les partenariats entre nos universités, nos facultés et des universités israéliennes. Et une fois qu'on a l'information, à ce moment-là, on fait pression pour que ces universités cessent leur relation. Et c'est pas seulement une demande qui est basée sur l'éthique ou la moralité, c'est aussi une demande légale, encore plus depuis qu'on a les jugements de la Cour internationale de justice considérant la plausibilité du génocide et l'illégalité de l'occupation. Ces universités israéliennes ne font pas le travail d'éduquer et de répandre la connaissance. Elles ont des liens intrinsèques avec l'appareil sécurito-militaire. Il y a des campus militaires dans les campus universitaires. Il y a des liens directs entre la propagande israélienne et les universités israéliennes. Et donc, elles font un manquement direct au droit international. Elles participent au système d'oppression. Elles participent à le maintenir et à l'aider. Et donc, de ce fait, elles doivent être sanctionnées et les liens doivent être coupés avec toutes les universités israéliennes. Et donc, on a vraiment la pression populaire qui fait pression sur les universités françaises, notamment, qu'elles soient privées ou publiques, pour plus de transparence, de manière générale, c'est important, et la fin de ces accords. Pour le boycott culturel, là encore, pas l'individu, pas l'identité, la complicité. Et donc, on va Après, la participation, par exemple, de sponsorship, de partenariat de l'ambassade israélienne avec des festivals de musique, des festivals de films. Et donc, on a des artistes qui décident de boycotter, qui décident de ne pas participer à des festivals qui ont un sponsor de l'ambassade israélienne. Ou alors, tout le travail autour de l'Eurovision de la chanson, par exemple, qui a eu lieu il y a quelques mois en Suède, où ça n'a jamais été aussi clair le débat autour de la non-neutralité de la culture. La culture est politique, elle est politisée, elle est utilisée pour normaliser Israël, pour blanchir ses crimes. Et donc, il y a de plus en plus d'artistes, d'acteurs et actrices qui décident de ne pas participer à cela. Et donc ça, c'est aussi très important. Et ça, c'est très important aussi pour Israël. Et on le voit dans la presse israélienne, tout ce qui est boycott académique et boycott culturel a vraiment énormément d'impact.
Alors, qu'est-ce que vous diriez aux gens là qui nous regardent, qui ne se sont pas encore lancés dans la démarche de boycotter? Qu'est-ce que vous leur diriez pour que, justement, ils aient envie de boycotter et qu'ils sentent que ça peut avoir un impact?
Ben, je pense que ce qui se passe à Gaza est une question, qui concerne toute l'humanité. Le plus facile à faire, quand on n'a pas la capacité de s'investir dans un mouvement ou dans des organisations, dans des syndicats, c'est le boycott de consommateurs et consommatrices. Et donc, moi, je les enjoins vraiment à aller suivre sur les médias sociaux BDS France pour pouvoir avoir accès à l'information, de mettre leur énergie sur des cibles prioritaires. Parfois, on voit des listes énormes de plein de marques qui circulent sur les médias sociaux. Et c'est un peu rébarbatif parce que voilà, on a l'impression que c'est une montagne de choses, qu'on va jamais y arriver. Mais si, il y a moyen de le faire. D'abord, en priorité, les marques, les cibles prioritaires, Carrefour, AXA, SodaStream, etc. Et donc ça, c'est montré par les médias, dans les médias sociaux de BDS France ou du mouvement BDS général. Ensuite, si on a envie de faire plus, bien sûr, on peut boycotter plus. Et là, on a fait récemment le mouvement BDS un partenariat avec l'application Boycott, qui est une application qui liste en fait les cibles prioritaires, les cibles un peu moins prioritaires et les cibles pas tellement complices, mais qui ont un petit peu de complicité. Alors, encore une fois, notre stratégie, c'est le boycott ciblé. Donc, vous téléchargez Boycott, quand vous allez faire vos courses, vous regardez un petit peu où vous allez. Déjà, vous n'allez pas chez Carrefour. Mais ça peut être très facile dans la vie quotidienne, parce qu'il n'y a pas tellement de listes, il n'y a pas tellement de cibles prioritaires. Ça demande pas un effort trop important au quotidien. Rejoignez les manifs aussi, si c'est possible. Et puis, continuez à parler de ce qui se passe, parce qu'il y a une invisibilisation des médias, et c'est encore pire en France, dans les médias mainstream, où il y a vraiment une invisibilisation, et même certains médias qui promeuvent, qui ont des discours génocidaires, ce qui est extrêmement grave, et je pense qu'à un moment donné, ils vont aussi devoir faire face à leurs responsabilités. Et donc, c'est important de continuer à parler de la Palestine, de continuer à parler à sa famille, à ses collègues, du boycott, de l'importance de faire en sorte d'avoir des espaces qui sont libres d'apartheid, libres de génocide, libres de crimes de guerre, parce que c'est aussi ça qu'on veut éduquer, qu'on veut passer pour nos enfants aussi dans la société de demain. Et donc, c'est un enjeu crucial aujourd'hui.
Et ça marche.
Et ça marche.
OK. Merci beaucoup, Fiona Ben-Chekroun. Et puis, on va suivre activement les campagnes de BDS.
Super. Merci beaucoup de m'avoir invitée.